Voilà, merci beaucoup. Donc on va commencer cette rencontre à l'heure. Donc merci beaucoup d'être venu ce soir, donc écouter cet échange avec Thérèse Delpech. Thérèse Delpech, donc, qui publie aux éditions Grasset L'appel de l'ombre, puissance de l'irrationnel. Alors, quelques mots de présentation peut-être. Sans doute connaissez-vous l'auteur sous un autre vêtement entre guillemets, puisque Thérèse Delpech, que pour ma part j'ai souvent interrogé donc pour le journal que je représente, non pas du tout comme un auteur sur l'irrationnel, mais comme une géostratège éminente dans notre pays, puisque Thérèse Delpech vous faites de la veille stratégique au commissariat à l'énergie atomique, donc, mais nous n'allons pas du tout, ou en tout cas de façon très indirecte, évoquer vos activités professionnelles, car c'est bien ici comme penseur, comme philosophe, comme écrivain aussi, que vous avez publié cet appel de l'ombre, qui est tout de même très lié à un autre ouvrage relativement récent, il date de 2005, L'ensauvagement, qui vous a d'ailleurs valu un prix à Bordeaux, et qui était un livre sur les relations internationales, mais qui était surtout un livre qui était une réflexion où la géostratège que vous êtes tentait d'aller un petit peu plus loin pour évoquer les grandes menaces qui pouvait peser sur notre 21e siècle. Alors, avec ce petit livre, je dis petit mais extrêmement dense, vous faites un pas de côté pour essayer de nous entraîner vers un autre aspect de notre actualité. Que se passe-t-il lorsque la raison, qui a l'air d'être à l'œuvre dans nos comportements, mais aussi dans le comportement des acteurs de la scène internationale, que se passe-t-il lorsque l'on ne comprend plus tout à coup certaines rationalités? Est-ce qu'il ne faut pas aller derrière, est-ce qu'il ne faut pas tirer le rideau, aller plus loin et essayer de comprendre ce qui se trame à la fois dans la psyché des individus et la psyché collective qui est à l'œuvre dans nos relations, nos relations humaines, nos relations internationales, afin de comprendre les menaces et peut-être sans doute de tenter de les conjurer. Alors voilà résumé très vite la tonalité de cet ouvrage. Donc on va aller un petit peu plus dans les détails tout de suite, mais Thérèse Delpech, je crois que vous aimeriez peut-être vous-même peut-être rassembler un petit peu ce qui a fait l'origine de ce livre et la façon peut-être aussi dont vous l'avez conçu et construit, et dans quel esprit bien sûr.
Bon, écoutez, de toute façon, moi je suis tout à fait à votre disposition sur la façon dont vous voulez structurer les choses. Ce que je peux faire en quelques minutes, c'est d'une part essayer de montrer le lien qu'il y a entre cet ouvrage, qui n'est pas pour moi un pas de côté, qui est central en fait dans ma réflexion, le lien qu'il y a entre cet ouvrage et l'ensauvagement, qui est le texte en fait où je faisais une comparaison entre 1905 et 2005, en essayant de montrer qu'en fait, il y a un siècle, en 1905, il y avait en germe pratiquement tout le XXe siècle. Et était-il possible en 2005 de dire quelque chose de comparable? À la fin de cet ouvrage, il y avait une réflexion sur, disons, le vide à la fois intellectuel et spirituel de notre temps, et un appel à réintégrer dans la réflexion tout ce qui peut échapper au contrôle de la raison. Et c'est dans la ligne droite de cet ouvrage que j'ai écrit, donc L'appel de l'ombre. L'appel de l'ombre aurait pu être très bien une sorte de traité sur l'irrationnel. C'est-à-dire, si vous voulez, moi j'ai une formation philosophique et j'ai tout à fait la possibilité d'écrire un livre en essayant de réfléchir à ce que les philosophes, depuis l'Antiquité, ont pu dire sur ce sujet. Ça n'a pas été du tout mon approche. L'approche que j'ai choisie dans cet ouvrage est une approche à travers des expériences de l'irrationnel. C'est-à-dire que je mets en scène des personnages qui tous, d'une façon ou d'une autre, ont eu une expérience soit de la folie. Alors, c'est le cas de trois personnages dans le livre, Ajax dans l'Iliade, Hamlet dans la pièce qui porte son nom, et le roi Lear de Shakespeare. Donc, ces trois personnages, en fait, ont vécu une expérience de la folie qui est très différente. Ce n'est pas du tout comparable, l'expérience d'Ajax, celle d'Hamlet et celle du roi Lear. L'expérience d'Ajax, c'est une folie qui lui est imposée par la divinité, en l'occurrence Athéna. Et il y a là, d'ailleurs, quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que Athéna est en principe la déesse dans l'Olympe qui protège les héros. Or, s'il est un personnage dans l'Iliade qui est héroïque, si vous mettez Achille de côté et Hector, c'est Ajax. Ajax est le héros par excellence. Il ne cesse de se battre, on ne cesse de le voir au cœur du combat. Et pourtant, Athéna non seulement ne le protège pas, mais elle le perd.
Athéna, qui est quand même la déesse de la raison, de plus.
C'est la déesse peut-être la plus énigmatique de tout le panthéon grec, parce que, comme vous le savez, elle n'a pas de mère. C'est la fille de Zeus, sans mère.
Sortie et de la cuisse de Jupiter.
Elle a un rôle dans l'Olympe, qui est un rôle très spécifique, parce que c'est la déesse des conflits, mais pas sous la forme où Mars et Arès, disons en grec, est le dieu des conflits. Arès, c'est la violence déchaînée. Minerve est une déesse qui est au contraire très contrôlée dans sa gestion des conflits. Mais Minerve est aussi, comme on le voit d'ailleurs dans la façon dont elle est évoquée par un philosophe comme Hegel, c'est aussi la déesse de la raison et de la sagesse. Bon, or là, elle intervient d'une façon très étrange à l'égard d'Ajax, qui peut considérer à juste titre qu'il est victime d'une injustice absolue, parce que c'est à lui qu'auraient dû revenir les armes d'Achille quand Achille meurt, et ces armes vont revenir en fait à Ulysse. Donc, si vous voulez, il y a cette première folie, et j'entre pas trop dans le détail parce que sinon... mon propos va être trop long. La folie d'Hamlet est une folie qui n'a absolument rien à voir. La folie d'Hamlet est, à mon sens, hein, c'est l'interprétation que je donne dans cet ouvrage, un lien direct avec l'ambiguïté du fantôme qui lui apparaît sur les remparts. Il ne sait pas. Quand le fantôme a disparu, il ne sait pas si c'est le fantôme de son père ou si c'est un esprit malin qui est venu pour le perdre en lui demandant d'assassiner Claudius. Et c'est cette incapacité de distinguer, le bien du mal, si on va au fond des choses, qui est à la racine de la folie que connaît Hamlet. Il y a un autre élément de trouble, c'est que ne pouvant avoir confiance ni dans son père, ni dans sa mère, qui s'est remariée avec Claudius et qui a visiblement une part dans l'assassinat du roi son père, il a perdu en fait toute capacité de vie affective. Et donc, lui-même C'est la raison pour laquelle sa relation à Ophélie est tellement tragique. Lui-même n'a plus... on lui a enlevé, d'une certaine façon, la possibilité de vivre tout ce qui peut être... tout le domaine affectif est, d'une certaine façon, détruit, comme par une arme atomique, d'une certaine façon. Et il devient lui-même le meurtrier, non seulement de Claudius... mais également d'Ophélie, indirectement, de ses deux amis, Guildenstern et Rosencrantz, de Laerte, puis de Claudius, et comme vous le savez, sa mère elle-même meurt en fait à sa place, puisqu'elle boit la coupe qui était destinée à Hamlet au moment du duel, tout à fait à la fin de la pièce. Donc si vous voulez, la folie de Hamlet est une folie devant la contradiction qui est au cœur du problème moral, à mon avis. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce personnage exerce une telle fascination depuis qu'il a été créé. Lear, c'est encore autre chose, c'est tout à fait différent. Le roi Lear est la folie qu'il représente, un caractère cosmique, est représenté par cette gigantesque tempête qu'il y a dans toute la pièce. Et la folie de Lear est une folie qui est liée à cette demande absolue d'amour à ses trois filles. Vous savez qu'il doit, il leur demande à toutes les trois de lui dire combien elles l'aiment. Et c'est celle qui fera la déclaration d'amour la plus véhémente qu'aura le royaume de Lear, qui est un royaume imaginaire. C'est une des rares pièces historiques qui n'est pas historique chez Shakespeare. Et dans cette folie, il y a en même temps l'idée que si le roi est fou, l'ensemble du royaume part dans le chaos. Et ça, c'est une idée qui est très très importante dans toute la réflexion que Shakespeare a sur la monarchie. Et si vous voulez, c'est lié. Nous avons fait une révolution. Et nous savons ce que c'est que le régicide en France. Il faut savoir que dans tous les écrits qui ont été produits sur cette question du régicide, il y a le plus souvent le problème de savoir ce qui est détruit au moment où on coupe la tête du roi. Est-ce que c'est simplement un individu qui disparaît ou est-ce que c'est un trouble beaucoup plus grave ? C'est un peu cette question qui est traitée dans le roi Lear.
Alors, pardon, excusez-moi de vous interrompre, puisque vous parlez du roi Lear, une des choses intéressantes à ce propos, c'est de vous souligner que Shakespeare n'aurait pas voulu sans doute qu'on donne une explication purement psychologique à la folie de Lear, et qu'en fait il s'agit de bien d'autres choses. C'est vraiment que Lear, comme la plupart de ces personnages dont vous parlez, est la proie de forces qui le dépassent, et qu'il faut mener une analyse qui est une analyse, vous avez parlé de la tempête, une analyse cosmique, une analyse qui dépasse largement le personnage lui-même. Le personnage est certes le bourreau de lui-même et le bourreau notamment de cette fille, de cette dernière fille, la seule qu'il aime, Cordélia, la seule qu'il aime et au fond qu'il martyrise, alors qu'il cherche l'affection de celle qui le déteste. Donc il y a cet aspect psychologique, cet aveuglement de Lear et cette analyse que l'on peut faire du personnage, mais bien davantage, vous insistez sur, et Shakespeare aurait sans doute voulu, dites-vous, que ce soit le cas, il faut insister sur tout ce qui dépasse les individus. Ils sont le jouet de forces profondes. Et alors, comment est-ce que ça peut être rapporté au personnage lui-même? Parce que le personnage lui-même a-t-il conscience toujours? Et lorsque nous voyons la pièce, en avons-nous conscience nous-mêmes ou pas?
Lear a un moment de lucidité très très bref. Qui a lieu en fait au moment où Cordélia revient de France, puisqu'elle a épousé le roi de France. Elle revient de France pour se battre avec les forces que représentent ces deux sœurs qui ont trahi leur père. Et à ce moment-là, il a un bref éclair de lucidité et il reconnaît la fille qui était celle qu'il aurait dû choisir. Mais ce moment est très bref parce que Cordelia est tuée. Et il ressombre à nouveau dans la folie et meurt. Et donc, si vous voulez, d'une certaine façon, la pièce entière est une pièce sur la folie de Lear. De la même façon, dans Hamlet, vous avez un moment de lucidité tout à fait à la fin, au moment où lui meurt, et où il parle à Horatio, et où il lui dit qu'il veut que son histoire soit connue. Mais pour tout le reste de la pièce, on peut toujours se poser la question de savoir si s'il a véritablement conscience de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, ou s'il est lui-même prisonnier du cauchemar dont il ne cesse de parler. Bon, maintenant, il y a un autre aspect que celui de la folie. C'est toute la dimension de l'inconscient. Et là, je m'arrêterai après cela parce que je voudrais qu'on puisse discuter davantage. Mais quand on parle de Lear, il y a une chose qui est vraiment absolument fascinante, c'est la façon dont Freud en parle. Parce que Freud souligne, dans un passage qui est un passage qui montre à la fois à quel point Freud était un esprit cultivé, et aussi extraordinairement imaginatif, Freud fait la remarque que, bizarrement, Lear, comme Paris, doit choisir entre trois femmes. Et il a, dans un petit essai qui s'appelle « L'histoire des trois coffrets », il a un texte mais qui est vraiment absolument admirable, où il parle de... la peur que Lear a de Cordelia, qui n'est pas une peur de l'amour que Cordelia lui porte, qui est l'interprétation que moi je donne dans mon livre, mais qui est en fait une peur de la mort. Il dit que Cordelia, d'une certaine façon, représente la mort, et que dans la vie de l'individu, en particulier dans la vie des hommes, il y a trois femmes. Il y a la mère, il y a l'épouse et il y a la mort. Et que l'homme espère toujours retrouver l'amour parfait qui est celui de la mère, mais qu'en fait, la femme qui finit par le prendre dans ses bras, c'est la mort. C'est un texte vraiment absolument admirable qui en plus montre à quel point la pensée de Freud est une pensée pessimiste et triste.
Alors vous parlez donc ce livre est consacré à l'irrationnel, donc vous avez évoqué la folie, vous avez évoqué aussi les forces de l'inconscient. Il y a toute une partie aussi du livre et à travers certains exemples qui est consacrée au mystère, c'est-à-dire que vous racontez. Alors peut-être faut-il dire d'ailleurs un mot tout de suite de la construction du livre, parce que c'est un livre qui est construit de telle façon que vous pouvez naviguer à l'intérieur de façon très libre. Vous parlez de deux allées qui vont l'une à côté de l'autre et puis avec un manège au milieu. Chacune des allées a la 5 stations, 5 histoires. Donc on peut lire vraiment de façon très très désordonnée ces 10 chapitres et cet intermède. Donc nous naviguons du capitaine Ahab à Ajax, de Carl Jung à Sigmund Freud. Nous allons voir Shakespeare. Nous rendons visite à Melville. Mais tout cela est assez fait système, à condition que nous essayions de comprendre quel rapport chacune de ces histoires a avec l'irrationnel. Et en particulier, il y a un chapitre qui m'a frappé, qui est consacré à la Trinité. La Trinité qui a fait l'objet d'énormément... La triple nature de Dieu, c'est une question qui a été débattue pendant des siècles, dans un très très grand luxe de détails, qui est très, très incomprise aujourd'hui. C'est aujourd'hui un profond mystère. Ça n'a jamais cessé d'être un mystère, mais c'est un mystère dont on ne parle plus. C'est un mystère dont on a beaucoup parlé, ou sur lequel on a beaucoup glosé, puis dont aujourd'hui on ne parle plus. Alors ma question, c'était en quoi le fait de ne plus considérer les mystères, de ne plus discuter des mystères, nous handicape-t-il aujourd'hui, à travers notamment cette histoire de la Trinité, qui est une histoire passionnante, évidemment.
Il y a toujours une présence des mystères, ne serait-ce que parce que les grandes œuvres, qu'elles soient littéraires ou picturales, en traitent constamment. Vous allez dans un musée, vous ne cessez de voir des représentations de la Trinité. Elles sont parfois très différentes. Mais tous les grands peintres ont traité de ce mystère jusqu'au XIXe siècle, y compris. Évidemment, à partir du moment où la peinture devient abstraite, la chose est plus complexe. Mais vous avez également, même dans la littérature contemporaine, vous avez des passages extraordinaires sur la Trinité. Chez Joyce, par exemple. Et là, c'est un des liens entre Joyce et la pièce de Shakespeare, Hamlet. Parce que Joyce, dans Ulysse, ne cesse, il y revient constamment, il ne cesse de réfléchir à la relation du roi Hamlet et de son fils Hamlet, qui, comme par hasard, porte le même nom. Il ne cesse de mettre cette relation en perspective avec le problème de la Trinité qui a occupé, comme le disait Christophe Lucet, des générations et des générations, mais non seulement cela, a été l'objet de tous les premiers conciles. Parce qu'il fallait pouvoir enseigner à la chrétienté qui était le Christ. Donc, avait-il une nature? Avait-il deux natures, divines et humaines? Quelle était sa relation avec cet Esprit Saint dont il est question à plusieurs endroits, avec les trois personnages qui apparaissent déjà dans l'Ancien Testament devant la tente d'Abraham, et qui annoncent à Abraham, d'ailleurs, qu'il va avoir un fils l'année prochaine, quand ils reviendront, parce que, comme vous savez, dans la Bible, il y a toujours des difficultés énormes pour mettre les enfants au monde. En général, il faut attendre d'avoir 90 ans, qui est à peu près l'âge de Sarah, d'ailleurs, je crois, selon la Bible. Donc, vous avez dans les œuvres picturales, dans les œuvres littéraires, vous avez une évocation constante, en fait, de toute cette tradition. Donc, il est très très difficile, si l'on ne veut pas être coupé des générations précédentes, il est très difficile de faire l'impasse complète là-dessus.
Bah, je dirais pas. Est-ce que, par exemple, on peut comprendre l'histoire de l'Occident et de l'Orient, si on ne comprend pas que l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident se scindent simplement sur l'interprétation de la Trinité, finalement, se scindent sur cette question qu'on appelle le filioque, c'est-à-dire que les orthodoxes et les chrétiens d'Occident ne sont pas d'accord sur la conception qu'on doit se faire de la Trinité.
Et c'est une question qui nous paraît tout à fait baroque aujourd'hui, mais il se trouve que c'est une question qui a été suffisamment sérieuse pour scinder les deux églises d'Orient et d'Occident. Le problème était de savoir si le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils, conception de l'Occident, ou simplement du Père, conception de l'Orient et que l'on retrouve encore aujourd'hui chez les orthodoxes.
Et avec des conséquences sociales, culturelles,
avec des conséquences aussi sur le fait que, si vous voulez, pour la Trinité, on peut dire en fait que le judaïsme est vraiment la religion du Père, que le catholicisme est celle du Fils, et que l'orthodoxie est celle de l'Esprit-Saint. Enfin, ce sont les personnages de la Trinité sur lesquels les trois insistent le plus. Je voudrais revenir peut-être un peu sur la structure du livre, parce que, comme l'a dit Christophe Lucet, il y a une série d'histoires que l'on peut lire tout à fait comme des contes, comme des récits, mais il y a aussi, entre les différents chapitres, il y a des relations qui sont des relations que je ne souligne pas parce que je veux laisser le lecteur faire ses découvertes tout seul, mais il y a des liens entre les chapitres. Et certains de ces liens, donc si vous voulez, c'est un peu comme des nappes phréatiques qu'on voit ressurgir. Par exemple, vous avez très nettement entre le premier chapitre sur la Trinité et le dernier chapitre, qui est un chapitre sur la science et sur la mécanique quantique, vous avez un lien qui est exprimé là dans l'introduction, c'est-à-dire que la nature est tout à fait aussi mystérieuse que la divinité. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que c'est aussi quelque chose que disent un certain nombre de scientifiques, et en particulier de physiciens contemporains. Celui dont je parle le plus souvent, qui est Dick Feynman, qui est un prix Nobel de physique, et un homme absolument extraordinaire. Ses cours sont disponibles en anglais, pas traduits en français. Il dit que, quelles que soient les découvertes des scientifiques, là, il restera toujours, il dit bien toujours, je veux dire, quels que soient les progrès de la science, il restera toujours quelque chose de mystérieux dans la nature. Et Feynman n'est pas croyant. Il ne dit pas ça comme esprit religieux, disons, du tout. Il dit ça comme scientifique. Il dit que chaque fois que la science avance, il y a en fait des domaines nouveaux qui s'ouvrent à la réflexion, et que dans un certain nombre de domaines, on a des phénomènes qui sont des phénomènes contradictoires. Alors, il y a l'exemple très célèbre de la lumière. On a pensé pendant longtemps que la lumière était faite de particules, hein, les photons, puis que c'était en fait des ondes. Puis on est revenu à l'idée de particules, et finalement, il y a eu la reconnaissance que la lumière était à la fois onde et particule, ce qui est contradictoire tout à fait en physique. Donc, si vous voulez, il y a dans le livre des échos. De la même façon, si vous voulez, le texte sur Hamlet trouve des échos dans une pièce d'un metteur en scène anglais qui s'appelle Michael Frayn, et qui est un metteur en scène qui raconte la rencontre en septembre 41 de Heisenberg et de Bohr, les deux physiciens nucléaires, donc qui se rencontrent, et toute la question de la pièce est de savoir ce qu'ils se sont dit pendant cette rencontre. Ils ne pouvaient pas parler ouvertement à cause des micros qui étaient chez Bohr. Naturellement, le pays était occupé, enfin le Danemark était occupé, et à un moment, ils sortent de la pièce pour aller parler à l'extérieur, et où vont-ils? Ils vont sur le site d'Elsener. Et donc il y a dans la pièce tout un développement sur Hamlet et sur Elsener. Donc, si vous voulez, il y a dans le livre énormément d'imbrications qui sont des imbrications, comment dire, clandestines. Ils ne sont pas, on ne voit pas la couture nécessairement, mais elles sont là. Et dans les 10 histoires qui sont au cœur du livre, qui sont des petites histoires courtes, ce sont des histoires qui ont toutes, des échos avec certains chapitres. Par exemple, il y a un chapitre qui est consacré au prophète Jonas, avec l'histoire de Melville dans Moby Dick. Et il y a dans les 10 petites histoires, il y en a une qui est une histoire de Melville sur un cachalot particulier. Donc, tout ce livre est en fait construit, il y a une construction qui m'a demandé énormément de travail, mais sur laquelle je n'ai pas voulu insister, et en particulier pour laisser les lecteurs libres.
construction savante mais qui ne se voit pas, c'est les meilleurs.
Je
voudrais peut-être revenir sur quand même le sens de l'irrationnel, c'est-à-dire que la véritable histoire, c'est que notre monde contemporain a tendance à oublier les différentes figures de l'irrationnel, ou à les sous-estimer, ou à les oublier, et cela a des conséquences. C'est-à-dire que lorsque vous évacuez le mystère, lorsque vous évacuez la surprise, lorsque vous évacuez la folie, lorsque vous évacuez tout ce qui n'est pas purement rationnel, vous vous condamnez à ne pas comprendre. La raison se condamne elle-même. Vous dites, je me reporte au livre, mais par exemple cette phrase, vous dites: privé de l'irrationnel, la raison est menacée de sécheresse et d'appauvrissement. Elle est aussi coupée de pans entiers de la connaissance. Et vous ajoutez inversement, l'irrationnel, lui, court le risque de sombrer dans la déraison et la violence si le souci des lumières disparaît. Donc en fait, évidemment, tout votre livre est un appel au dialogue entre la raison et l'irrationnel.
À l'équilibre.
Mais en ayant bien conscience qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, dans la société où nous sommes, il y a une sous-estimation manifeste de l'irrationnel. Or, cet irrationnel, on sent bien qu'il est présent. Pensons par exemple, je ne sais pas moi, à la Corée du Nord, ou pensons tout simplement à la guerre, mais l'irrationnel, pour quelle raison nous faisons-nous la guerre, pour quelle raison la violence déchaîne-t-elle? Évidemment, la raison est impuissante à en fournir une explication, et donc nous sommes condamnés aujourd'hui à ne pas bien comprendre notre monde si nous ne faisons pas un détour par ces histoires-là. C'est bien ça, Thérèse Delpech.
C'est-à-dire si vous voulez, je crois qu'on est extrêmement conscient aujourd'hui des problèmes que posent les comportements irrationnels. On en est très conscient parce que les relations internationales en sont pleines, parce qu'on est confronté à des phénomènes de violence gratuite, pour toutes sortes de raisons. On est très conscient de cela. On est beaucoup moins conscient du rétrécissement de la conscience qu'amène le souci de tout rationaliser ou de tout vouloir dominer. Vous voyez ? Donc c'est à cause de cela que j'essaie de remettre en place les deux versants du psychisme, en insistant bien sur le fait que finalement, quand même, et là je crois que la psychanalyse ne peut pas être dépassée, que la raison est une mince couche, que toutes les grandes expériences humaines et que toutes les grandes expériences, disons, individuelles et collectives, ne peuvent pas être expliquées simplement par l'exercice de la raison. Maintenant, Christophe, vous parliez de la guerre. Et ça, c'est évidemment un thème extrêmement intéressant. Il y a un chapitre du livre qui s'appelle « Arès déchaîné » où je cite un texte qui m'a moi-même énormément surpris. C'est un texte d'un officier soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale qui parle des forces qui le poussent et qui le dépassent. Et il en parle dans des termes qui sont absolument les termes des guerriers de l'Iliade, naturellement.
J'ai retrouvé le passage, d'ailleurs, on voit ces propos d'un officier soviétique donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Il dit « J'ai été hanté par l'idée des gladiateurs. Nous ne nous battions pas par sens du devoir, ni avec notre volonté et nos désirs, mais grâce à une force inexorable. » Et il parle d'une force invisible qui nous destinait à être les gladiateurs du XXe siècle. Voilà, donc ce texte, et vous ajoutez ce texte de l'officier soviétique, montre aussi ce qui relie les Russes à un passé commun avec tout le monde occidental, mais surtout ce qui les relie donc à la mythologie.
Ce qui les relie à la pensée d'Homère, finalement, puisque Homère a vu... Si vous voulez, il y a une des lectures possibles de ce livre... lecture sur laquelle je suis en train d'ailleurs de faire un texte, une des lectures possibles, c'est de le voir comme un travail sur les origines de la pensée occidentale. Pourquoi est-ce que ou de la pensée européenne, si vous préférez, pour faire plus court. Pourquoi est-ce que, à l'origine de la pensée européenne, on a d'un côté Homère, en gros, on a, on peut le faire de plusieurs façons, mais disons, Homère et la Bible. Vous avez Homère avec deux récits, donc un récit qui est celui d'une guerre absolument impitoyable, où, comme vous le savez, Homère ne prend pas parti. Il a autant de sympathie et d'amour pour les Troyens que pour les Grecs. C'est une des choses admirables dans ce récit. Donc, il y a le récit de ce conflit impitoyable. Et puis, il y a, d'un autre côté, avec Ulysse, il y a le tout premier récit de la nostalgie. La toute première expression de la nostalgie de la maison, la nostalgie du retour chez soi.
D'ailleurs, en grec, ça veut dire la nostalgie, c'est la douleur du retour. Hein.
Oui, ben c'est exactement cela. Et donc, après les 10 ans de guerre de l'Iliade, vous avez les 10 ans d'errance d'Ulysse. Et comme vous le savez, quand il arrive à Ithaque, il va repartir. Il ne reste pas. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté ce récit du conflit, il y a cette première expression dans la littérature européenne de la nostalgie, et puis d'un autre côté, avec la Bible, il y a, pour la toute première fois, l'idée que l'histoire a un sens. C'est-à-dire qu'il y a un dessin dans l'histoire. Enfin, un dessin, d'ailleurs, vous pouvez l'écrire dans les deux sens. Il y a un dessin. Et ce dessin est un dessin qui est une œuvre commune d'une divinité transcendante et d'une humanité, et à travers en particulier un peuple précis, qui est en quelque sorte le symbole de l'humanité. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'origine de la culture européenne pour qu'on ait cet ensemble d'histoires ? Quelle est leur relation ? Et pourquoi a-t-on ces récits-là ? Vous voyez, je crois que c'est une grande question et à laquelle je ne réponds pas du tout hein, dans ce livre. Mais je suis en train de réfléchir sur cet aspect de l'ouvrage.
On a par exemple une notion qui est très importante chez les Grecs, qui est la notion de démesure, ce qu'on appelle hubris, démesure. Cette démesure qui fait que l'on retrouve alors dans l'histoire du capitaine Achab, qui donc ce personnage du roman de Melville, qui part à la recherche de la baleine blanche et qui dans cette quête va aller jusqu'au bout, jusqu'au pire, parce qu'il ne voit aucune limite à sa recherche, à sa volonté. À sa volonté de dominer la bête, à sa volonté de puissance. Cette hubris qui est décrite dans l'Iliade et dans l'Odyssée, cette démesure-là que l'on retrouve périodiquement et qui est une clé d'interprétation pour beaucoup de conflits. On peut par exemple considérer peut-être que la politique américaine au Moyen-Orient en 2003 peut-être a été marquée, je crois que beaucoup d'observateurs l'ont remarqué, marquée par une forme de démesure après le cataclysme de la ressenti au moment du 11 septembre. Donc, est-ce que c'est de ça que vous voulez, est-ce que c'est ça que vous voulez dire, c'est-à-dire que sans connaissance de nos grands textes fondateurs, on s'interdit de bien comprendre les ressorts de notre histoire contemporaine.
C'est-à-dire il y a très certainement l'idée que nous sommes d'une certaine façon des survivants et donc nous sommes les héritiers de tout un passé qui a produit des œuvres admirables, des réflexions dont nous avons toujours besoin. Et si vous évoquez les Grecs et la notion d'hubris, je pense qu'une des très grandes choses que les Grecs ont apportées, mais il y en a tellement, une des très grandes choses que les Grecs ont apportées, c'est cette idée que l'être humain devait avoir conscience de ses limites. Et qu'il était extrêmement important dans la conduite privée et dans la conduite publique des affaires d'avoir le sens des limites. L'hubris, c'est l'inverse. Et l'hubris chez les Grecs est toujours puni par la divinité. Alors vous avez fait référence à Melville. Melville qui est pour moi le plus grand auteur de la littérature américaine, de loin. Dans son livre Moby Dick, met en scène un personnage qui part à la chasse à la baleine pour des raisons complètement différentes de tous les baleiniers. Ce qui l'intéresse, c'est pas de ramener une baleine au port ou de ramener des baleines au port pour faire fortune. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la peau de la baleine blanche qui lui a arraché une jambe. Et il y a dans la relation entre Achab et la baleine blanche, il y a une sorte de miroir de deux personnages qui incarnent tous les deux le mal. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'Achab, pour Melville, incarne le mal. Absolument aucun doute. Au moment où il est sur le point de tuer, pense-t-il, de tuer la baleine, il prend son harpon et il bénit son harpon au nom du diable. Oui. Il n'y a aucun doute sur le côté maléfique d'Achab. Et la baleine blanche représente en même temps cette sorte de course folle, parce que c'est aussi une figure de la folie, Achab. Hein. J'en ai parlé de trois, en fait, il y en a quatre dans le livre. Il y a aussi le personnage d'Achab. Et Achab fait promettre à l'ensemble de l'équipage qu'il va le suivre dans cette aventure qui n'a rien à voir avec le travail des baleiniers, qui est déjà suffisamment compliqué comme ça. Et comme vous le savez, ils vont tous mourir, sauf un, Ismaël, et dont il est dit dans le livre qu'il ne survit que pour témoigner, c'est-à-dire que pour raconter cette histoire qui est une histoire de démesure, de folie et finalement de mal absolu. Donc il y a là une leçon qui est une leçon tout à fait grecque, on peut dire.
Ce livre donc nous rappelle des histoires qui sont fondatrices de notre Occident, des histoires qui ont vous avez parlé de la Trinité, des bibliothèques entières qui ont été consacrées à la Trinité, des innombrables livres qui ont été de gloses ou de commentaires qui ont été écrits sur Achab, sur l'Iliade, sur Shakespeare. En même temps, il y a dans votre livre un certain désenchantement aussi s'agissant de la capacité des hommes et femmes d'aujourd'hui à recevoir ces textes. Vous dites au fond on ne les lit plus assez. Est-ce qu'on sait encore les lire? Est-ce que lorsque l'on en parle on est compris? Est-ce que par exemple quand je parle de la folie d'Ajax et de l'histoire d'Ajax, est-ce que ce que je dis fait image? Quand je parle des Argonautes, quand je parle de sa relation avec Athéna, quand je parle de l'histoire des bœufs qu'il tue dans sa folie. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre lorsque j'évoque les personnages de Shakespeare, même s'ils sont très souvent représentés au théâtre, si on se donne la peine d'aller au théâtre, mais
quand ils sont bien joués.
Il y a tout de même dans votre livre un certain regret et peut-être l'intuition que ces textes-là qu'on lit moins sont devenus plus difficiles à recevoir et à comprendre et que c'est un grand refoulé finalement qui nous habite, le fait de ne pas les lire, de ne plus y faire attention, donc a ouvert sous nos pas un grand vide qui va être difficile de combler. Est-ce que vous êtes assez pessimiste là-dessus et comment...
J'ai des sentiments assez mélangés sur ce sujet, parce que si vous voulez, d'un côté je suis bien obligée de reconnaître que les références bibliques ou mythologiques sont souvent difficiles à suivre. Bon, par exemple, il y a deux Ajax dans l'Iliade. Qui connaît la différence entre le petit et le grand Ajax, qui est fondamental pour Homère, vous voyez. Mais ça ne fait plus partie, si vous voulez, de la culture. Véritablement
commune.
La culture collective Il est difficile d'avoir un dialogue sur ces questions. D'un autre côté, c'est pour ça que je suis assez partagée. Et puis bon, on voit aussi dans l'enseignement, si vous voulez, la part de plus en plus réduite. Mais d'un autre côté, alors d'abord, je vois que c'est un ouvrage qui a été très bien reçu, ce qui m'a agréablement étonné dans la mesure où, si vous voulez, j'ai travaillé jusqu'à présent plutôt sur des sujets de géopolitique et moins sur des sujets littéraires ou psychanalyse ou bibliques, à l'exception de l'ensauvagement. Mais donc, y a cela. Et puis d'autre part, j'ai eu la curiosité de regarder ce qu'il y avait sur Internet comme site sur l'Antiquité. Les dialogues qu'il y avait sur des problèmes de l'Antiquité qui m'intéressent, par exemple. Et j'ai vu qu'il y avait mais pléthore de sites. Et donc, suivant les conversations qu'il y avait entre des individus qui étaient en fait des individus visiblement assez jeunes, et le côté passionné avec lequel, par exemple... on évoque l'histoire de Mithridate, pour vous donner un exemple. Je me suis dit qu'il y avait sûrement toujours un intérêt pour toutes ces grandes histoires qui, après tout, sont passionnantes. Bon, il m'est arrivé l'année dernière de relire absolument intégralement les Métamorphoses d'Ovide. Et... là, vous avez une sorte de, comment dire, d'effort de mémoire absolument gigantesque de la part d'Ovide, qui essaie de récapituler toute l'histoire depuis la fondation jusqu'à l'époque d'Auguste, hein, qui est à peu près la sienne. Et la question que je me suis posée, c'est à laquelle je n'ai toujours pas répondu d'ailleurs, c'est pour quelle raison est-ce qu'Ovide ne raconte que des histoires où l'on voit des métamorphoses. Alors, il y en a qui sont très célèbres. Bon, Apollon et Daphné qui devient un arbre. Mais il y en a de moins célèbres, des couples qui sont transformés en serpents à la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il a eu cette sorte d'obsession de la transformation? Bon, eh bien, j'ai vu qu'il y avait sur un certain nombre de sites des discussions sur cette question. Donc, si vous voulez, je suis partagée là-dessus. Et je crois qu'en fin de compte, je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que les lecteurs d'aujourd'hui ont parfaitement la sensibilité qui leur permet de voir que dans ces histoires, il y a encore une telle intensité d'émotion et de tels, sujets de réflexion que cela mérite véritablement qu'on s'y replonge. Et si je voulais, définir un peu la façon dont je vois personnellement ce qui serait le succès ou l'échec de cet ouvrage, le succès pour moi serait d'avoir des lecteurs qui recommencent à lire Homère, à lire Melville, à relire les grandes tragédies de Shakespeare, voire, je parle beaucoup des Russes aussi dans cet ouvrage, qui sont des génies de l'irrationnel, il faut dire. Et si vous voulez, j'aurais pu raconter des histoires différentes de celles que j'évoque ici. Ici, j'évoque par exemple un rêve qu'a écrit Pouchkine sur le marchand de cercueil, qui est l'histoire de ce personnage que ses amis font boire et que ses amis obligent à boire à la santé de tous les morts qu'il a mis dans des cercueils. Bon, il rentre chez lui et le lendemain matin, tous les morts qu'il a enterrés sont là. Donc, je raconte cette histoire qui est une histoire très intéressante sur le sens de la transgression de Pouchkine, parce que Pouchkine est un vrai génie de la transgression. Mais j'aurais pu parler d'une histoire que vous connaissez peut-être beaucoup mieux, qui est dans Dostoïevski, dans Les Possédés, un moment où Nicolas Stravogine, dans un salon, il revient de, de ses études. Il est revenu chez sa mère. Et un soir, dans un salon, sans que personne comprenne pourquoi, tout d'un coup, il mord l'oreille d'un vieillard. Et après, on lui demande « Mais pourquoi as-tu fait cela ?» Il est complètement incapable de rendre compte de son geste. Il en est incapable. Or, comme vous le savez, Stravogin, ce n'est pas une figure parmi d'autres chez Dostoïevski. Stravogin, c'est le personnage qui incarne les bouleversements souterrains les plus inquiétants de la Russie de la fin du XIXe siècle. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pour dire que...
Est-ce à dire que nous serions bien inspirés pour comprendre la politique russe aujourd'hui, de se replonger dans Dostoïevski, dans Pushkin, dans...
Les Russes n'ont jamais quitté.
Dans Tolstoï, les Russes n'ont jamais quitté.
Vous savez, les Russes sont beaucoup plus attachés à leur... leur littérature que nous ne le sommes à la nôtre. Il est très rare de rencontrer un Russe un peu cultivé qui n'ait pas une très bonne connaissance de Pushkin, par exemple. C'est très rare. Et qui ne soit pas absolument convaincu qu'il n'y a pas d'auteur plus remarquable que l'est Pushkin, qui perd beaucoup en traduction. Et donc, je ne suis pas sûre que nous puissions... avoir un jugement équilibré sur cette question. Mais bien entendu, pas seulement d'ailleurs les grands auteurs que nous connaissons, bah, Tolstoï d'ailleurs, dont on vient de fêter le centenaire de la mort, et ça pourrait être l'occasion de relire son œuvre, qui est quand même une œuvre absolument extraordinaire, mais Bieli, Andrei Bieli, qui a écrit dans la lignée de Dostoïevski et dont le grand ouvrage qui est Pétersbourg est un livre sur la révolution de 1905 et sur la façon dont la révolution de 1905 va avoir des conséquences absolument exceptionnelles pour l'histoire de la Russie.
Alors, qu'en est-il aussi de, peut-être moins parlé, qu'en est-il de la place du rêve? Vous avez cité Freud, vous citez souvent Jung. On sait quel rôle la psychanalyse peut jouer dans le fonctionnement des individus et de la société. Mais par exemple, la relation entre le pouvoir et le rêve, est-ce qu'aujourd'hui la politique est capable de s'appuyer sur des choses aussi irrationnelles que l'interprétation d'un rêve? On imagine très bien, évidemment, un roi ou une reine au XVIe siècle prendre le conseil d'un astrologue pour interpréter un songe de la nuit, mais on l'imagine beaucoup moins aujourd'hui pour un décideur politique contemporain. Est-ce qu'il y aurait lieu de porter attention à ce type de choses? Et plus généralement, est-ce qu'on est assez attentif à nos rêveries quand on est en responsabilité ou quand on est un individu, quel qu'il soit? Est-ce qu'on est suffisamment attentif à ce que les rêves nous disent, bien qu'on s'intéresse beaucoup en surface à la psychanalyse, à la psychologie? Dieu sait que les revues spécialisées marchent bien, même si la psychanalyse est attaquée par ailleurs.
D'abord, sur le plan de la littérature, l'œuvre sans doute la plus extraordinaire sur les relations du pouvoir et du rêve, ça doit être Macbeth, je pense. Maintenant, dans l'ambition politique, il y a une dimension irrationnelle absolument évidente et qui ne pourrait pas se concrétiser si elle n'existait pas. La plupart d'ailleurs des grands politiques sont conscientes de cette dimension. Maintenant,
encore quand ils disent j'ai fait un rêve et ce rêve va se réaliser.
Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a nécessairement une forme de comment dire. Il y a nécessairement dans l'ambition politique quand elle est grande. Et ça n'est pas nécessairement méprisable, d'ailleurs, du tout. Il y a nécessairement là une dimension qui est une dimension qui n'est pas contrôlée par l'individu. Maintenant, le chapitre qui est le chapitre que je consacre au rêve a, à une histoire politique qui est intéressante, mais qui est intéressante dans la mesure où elle montre à quel point dans le rêve vous avez une contraction du temps.
Vous dites que le rêve ignore le temps, hein?
Oui, c'est-à-dire c'est l'inconscient qui ignore le temps, et c'est pas de moi, c'est de Freud. Mais l'histoire est la suivante. C'est un rêve célèbre et d'un Français que connaissait très bien Freud et qu'il avait étudié. C'est un Français qui s'appelle Maury. L'histoire est la suivante. C'est un individu qui est transporté à la période révolutionnaire, qui traverse Paris, qui voit tout un ensemble de victimes donc de la Révolution, qui est arrêté, qui est emprisonné, qui est jugé, qui est condamné et qui est finalement qui va à l'échafaud et la guillotine tombe. Et à ce moment-là, il se réveille et il s'aperçoit que c'est le montant du lit qui est sur son cou. Et la chose extraordinaire, finalement, pour laquelle il n'y a pas d'explication, si vous voulez, là, vraiment rationnelle, si vous voyez, ce rêve même si la justice de Fouquier-Tinville était très expéditive, c'est un rêve qui est un long rêve. Eh bien, il se produit en une seconde, d'une certaine façon. Donc il y a un temps du rêve qui n'a rien à voir avec le temps de la vie diurne. Ça, je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant. Maintenant, l'autre chose très intéressante sur le plan historique sont les rêves que Jung a fait avant la Première Guerre mondiale. Il a vu tout le nord de l'Europe enseveli sous l'eau et il a rêvé de cataractes de pierre qui tombaient comme des montagnes sur l'ensemble de l'Europe, juste avant le... Et si vous voulez, les raisons pour lesquelles ceci s'est produit restent pour moi tout à fait énigmatiques. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée, ça a été la publication l'an dernier, vous en avez peut-être entendu parler, d'un ouvrage qui restait très longtemps dans un coffre de Zurich, qui s'appelle « Le Livre rouge », et qui est le récit de la vie psychique de Jung lui-même au moment où il a traversé la crise la plus dangereuse, disons, de son existence. Et c'était justement à ce moment, c'était à peu près avant la Première Guerre mondiale, comme s'il y avait une coïncidence, si vous voulez, entre son psychisme et ce qui se passait au niveau plus collectif. Voilà, je n'essaie pas d'expliquer ce genre de choses.
Donc là, on est dans le domaine de la prémonition, on n'est pas être attentif à ses prémonitions. Est-ce que c'est donné à tout le monde?
C'est-à-dire, non, je crois qu'il faut aussi se méfier. Moi, je veux dire, je ne suis pas là-dessus. Comment dire? Encore une fois, moi, je prêche pour l'équilibre. Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que je trouve que ça ouvre des écoutilles. Dans des domaines qui sont des domaines auxquels l'esprit contemporain n'est pas volontiers ouvert. Mais je ne suis pas du tout sur une ligne, disons, où je mettrais les phénomènes les plus aberrants en exergue, en disant « attention ».
Il s'agit d'ouvrir les écoutes.
C'est pas du tout ça. C'est de bien montrer que l'imagination que les grands mythes, que ce qui a nourri finalement le psychisme humain et ce qui continue de le nourrir est constitué très largement de choses qui échappent au contrôle de l'activité strictement rationnelle.
Donc ouvrir des fenêtres voilà. Ou des écoutilles, mais pas ouvrir les vannes, c'est ça,
c'est très dangereux, les
écluses toutes grandes à l'irrationnel.
L'ouverture des vannes est très dangereuse, et d'ailleurs Jung en a fait l'expérience lui-même, puisqu'il a été tout à fait au bord d'une expérience psychotique. Christophe, on peut peut-être s'arrêter là.
Je pense qu'on peut s'arrêter là, en tout cas. Mais, donc merci beaucoup d'avoir participé. Puis peut-être que Thérèse Delpech est à votre disposition si certains d'entre vous veulent lui faire signer cet appel de l'ombre, dont je rappelle qu'il était édité chez Grasset. Voilà, merci beaucoup.
Merci Christophe.